Bonjour, bienvenue à tous à l'assemblée spéciale de l'ensemble BCC. Je vous informe que les participants seront en mode écoute pendant la présentation et que la conférence est enregistrée. Je passe la parole à Monsieur Bruno Paillard.
Merci Cyril, bonjour à tous, bonjour mesdames, bonjour messieurs, merci de prendre un peu de temps pour nous rejoindre. Alors, notre assemblée aujourd'hui est un petit peu particulière, d'abord parce que c'est la deuxième fois que nous devons nous réunir à huis clos, ce qui n'est pas très sympathique. Et puis, nous sommes, là, je suis au siège du Champagne-Lançon, rue de Courlancy à Reims, et il y a Nicolas Rolo-Dugage et Katia. Alors attendez, là il faudrait me supprimer le son de ce truc parce que sinon on aurait un effet Larsen. Bon, ben si, j'ai supprimé le son. Là j'ai du son dans l'écran qui va revenir en Larsen, ça ne fonctionne pas. Très bien, alors on va éteindre le son. Nous allons procéder de la façon suivante. Il y a déjà une assemblée extraordinaire sur un sujet qui peut sembler marginal, mais dont je vous expliquerai tout à l'heure l'importance vis-à-vis de Proxinvest notamment. Et puis ensuite, vous aurez un petit film que certains d'entre vous ont peut-être déjà vu concernant l'interview des présidents. Et enfin, nous attaquerons l'ordre du jour, j'allais dire habituel, avec la présentation de l'activité générale en Champagne de notre groupe en particulier. Et puis, je vous parlerai un peu des perspectives, parce que nous avons quand même déjà quelques informations sur le premier trimestre et quelques objectifs sur l'année. Voilà. Donc, nous pouvons commencer tout de suite. Nicolas, voulez-vous
Oui.
nous lire le texte précis de cette résolution concernant l'Assemblée extraordinaire?
Oui, alors, à proprement parler, c'est une assemblée dite spéciale qui est relative à la modification de l'article 12 des statuts qui prévoit l'attribution d'un vote double au bénéfice des porteurs d'actions inscrites au nominatif depuis plus de 2 ans. Et
Lisez-le.
il est donc précisé dans la première résolution que pour une meilleure clarté de la répartition des droits de vote, la suppression à l'issue de la présente assemblée des droits de vote double accordés aux titulaires d'actions nominatives entièrement libérées, inscrites depuis 2 ans au même nom d'un même actionnaire. Donc chaque action Lançon VCC donnera droit à une voix à l'issue de la présente assemblée, donc une action, une voix, et corrélativement, cette première résolution emporte la modification de l'article 12 des statuts de la société, désormais rédigés comme suit, donc article 12, droits et obligations attachés aux actions. Chaque membre de l'Assemblée a droit à autant de voix qu'il possède ou représente d'actions sans limitation, sous réserve des dispositions légales ou statutaires pouvant restreindre l'exercice de ce droit. Voilà. Alors,
Merci.
c'est.
C'est une résolution que donc nous avons décidé de proposer parce que il existe des associations de veille sur les droits des actionnaires minoritaires qui s'opposent systématiquement à deux types de résolutions que nous avions l'habitude de proposer. Bon, l'histoire du vote double pour la détention de plus de 2 ans. Sur le principe, pourtant, nous sommes favorables, bien entendu, à l'actionnariat de longue durée, qui est adapté à notre métier de toute façon. Mais étant donné que les associations de minoritaires sont contre cette petite faveur et que de toute façon ça ne change strictement rien à la répartition des pouvoirs, eh bien nous avons décidé de leur donner satisfaction sur ce point. Le deuxième point sur lequel par contre nous ne leur avons pas donné satisfaction, c'est qu'en général ils votent contre aussi la suppression du DPS en cas d'augmentation de capital par placement direct. Bon, DPS, droit prioritaire de souscription. Donc là, nous avons quand même décidé de garder cela, vous le verrez dans les résolutions de l'Assemblée normale qui suivra. Voilà. Donc,
Alors pour la bonne forme juridique, je dois préciser que le bureau relatif à cette assemblée spéciale a été constitué, les 2 scrutateurs désignés ayant été étant Philippe Béjot et Evelyne Revoiselle, que moi-même, Rouleau-Dugage, je suis le secrétaire de séance, et je précise aussi que le quorum, bien sûr, est atteint, puisque 77,7% des actions ayant le droit de vote double, seuls les titulaires d'actions ayant le droit de vote double, ayant un droit de vote double, évidemment, participent à cette assemblée. Et de ce fait, l'assemblée est valablement constituée pour s'exprimer. 10 millions 23 318 droits de vote se sont exprimés, droits de vote double. Et cette résolution qui vous est soumise, ainsi que la deuxième qui va avec, mais ce sont évidemment les pouvoirs pour l'accomplissement des formalités, ces deux résolutions sont adoptées à l'unanimité des voix exprimées.
Merci Nicolas. Nous n'avons sur ce sujet reçu aucune question écrite, donc nous pouvons voter, enfin, tenir compte du vote que vous venez de rappeler, considérer que cette affaire est votée. Voilà, donc nous n'en parlons plus.
Donc à propos parler, l'Assemblée spéciale peut être clôturée et l'Assemblée mixte, ordinaire et extraordinaire, est convoquée à 10 heures, commencera à l'heure prévue. Entre-temps, Bruno Paillard, je crois que vous oui. invitez les
auditeurs. Eh bien, entre-temps, je vais vous inviter à écouter, pour ceux qui ne l'auraient pas encore, n'auraient pas encore eu l'opportunité, les interviews qui ont été réalisées par les présidents de nos différentes maisons. Vous savez, peut-être pas tous, mais enfin, vous savez, la plupart d'entre vous savez que la gouvernance a été pas mal refondée ces dernières deux, trois années, et nous avons plusieurs présidents dont les visages ne vous ont peut-être pas encore familiers. Donc vous allez pouvoir les entendre, chacun s'exprimer sur leur maison au titre de 2020. Ceci vous permettra donc de patienter une petite vingtaine de minutes jusqu'à l'ouverture de l'Assemblée générale ordinaire habituelle. Voilà. Merci. Et j'invite maintenant Cyril, si vous voulez bien lancer les interviews. Merci. Bon, bonjour à tous, ou rebonjour à ceux qui nous rejoignent pour l'Assemblée générale ordinaire. Monsieur Rouleau Dugage, qui est auprès de moi, va nous préciser ce que nous allons faire.
Alors, l'Assemblée générale mixte, qui réunit l'Assemblée générale ordinaire et l'Assemblée générale extraordinaire, est tenue exceptionnellement à huis clos, comme vous le savez, comme ceci a été spécifié lors d'un communiqué en début de mois. Le bureau a été constitué. Je rappelle que les deux scrutateurs sont Évelyne Roboisel et Philippe Béjot, et que je suis désigné le secrétaire de séance. Je précise enfin que le quorum est largement atteint, tant pour l'Assemblée générale ordinaire que pour l'Assemblée générale extraordinaire, puisqu'il dépasse les 72% des droits de vote, et que de ce fait, les deux assemblées peuvent se tenir valablement. L'ordre du jour, après une présentation du rapport du conseil d'administration par Bruno Paillard et l'intervention des commissaires aux comptes pour leur propre rapport, seront mises au vote 14 résolutions qui sont détaillées dans le document universel sur plus d'une dizaine de pages. Il y a 7 résolutions qui concernent l'Assemblée générale ordinaire, vous les connaissez, et puis 7 résolutions concernant l'Assemblée générale extraordinaire. Voilà, je pense que nous pouvons maintenant passer à la présentation du rapport du Conseil d'administration.
Merci Nicolas. Vous savez que d'habitude, nous présentons notre activité un peu sur le fond de l'activité générale de la Champagne. Donc, je vous rappelle déjà quels sont les éléments clés concernant la Champagne. C'est un vignoble d'appellation d'origine contrôlée, donc forcément limité. Et sur les 35 000 hectares théoriques couvrant 319 communes, principalement dans la Marne, l'Aube, l'Aisne et puis un peu la Haute-Marne et la Seine-et-Marne, 33 900 sont en production. L'année 2020, ben évidemment, je ne vais pas vous la refaire, c'est l'année du Covid. Les volumes expédiés par la Champagne dans son ensemble ont baissé de 18%. Le chiffre d'affaires de 17% à 4,2 milliards. La Champagne reste quand même, malgré tout, la première région viticole du monde en chiffre d'affaires, alors qu'elle ne représente que 0,4% de la surface mondiale de vignes. Je vous rappelle, comme d'habitude, que la question du raisin est cruciale en Champagne, puisque les vignerons possèdent 90% de la surface. Il y a 17 000 déclarants, 17 000 vignerons font des déclarations de récolte, et il y a plus de 300 000 parcelles en Champagne. Ce n'est pas du tout comme à Bordeaux, par exemple, où vous avez des grandes propriétés, d'où l'importance de ce marché du raisin. D'ailleurs, le raisin a été un des soucis de ces dernières années parce que le prix a augmenté de façon très violente, surtout en 2016-2017, puisque sur les dernières trois récoltes, c'est quasiment 10% en cumul de hausse du prix du raisin. Et ça a été beaucoup trop violent pour pouvoir être absorbé par la clientèle, principalement d'ailleurs, je dirais, la clientèle de grande distribution. Car les acheteurs de GD sont des gens très durs, ils veulent des prix stables, voire même quelquefois à la baisse, alors que c'est totalement impossible, évidemment. Et cela, malgré les efforts du gouvernement en créant la loi Egalim, on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment un grand respect de la part de la grande distribution vis-à-vis de nos problématiques. Nous en reparlerons tout à l'heure. La vendange 2020, je vous en dis un mot parce qu'elle a quand même été très exceptionnelle par sa date. Il est déjà arrivé depuis 1983, il est arrivé plusieurs fois que nous commencions à vendanger fin août. Mais là, ce qui est assez exceptionnel, c'est que non seulement nous avons commencé en août, mais nous avons terminé en août. Ça, c'est la première fois que ça arrive. Le cycle végétatif a été extrêmement rapide. On ne peut pas, malgré ce que disent les climato-sceptiques, nier le fait qu'il y a un réchauffement qui fait que nous venons d'ailleurs d'en avoir l'illustration il y a quelques semaines, qui fait que le printemps démarre quelquefois dès le mois de mars ou avril, avec des températures très chaudes, et que malgré tout, eh bien, le risque de gelée de printemps existe encore, nous l'avons vu récemment. Alors en 2020, il n'y a pas eu ces gelées de printemps, donc ce démarrage précoce, eh bien, a amené une maturité précoce, et tout cela a donné d'ailleurs du raisin de qualité, récolté très tôt. Pour un volume autorisé à la baisse, grâce à la négociation sage qui a été conduite entre le syndicat des vignerons et l'Union des maisons de champagne, sous l'égide du CIVC, pour ne pas, dans cette période de crise, risquer de déstabiliser le marché. Si nous regardons le slide suivant, nous voyons que c'est globalement quand même, malgré cette période très difficile, la Champagne est quand même sur un marché de croissance. Alors, ce que nous voyons sur la période 2011 ou 2012, 2020, c'est une décroissance. Mais cette décroissance, je le répète, elle est due au décrochage du marché français essentiellement et de quelques marchés proches à la suite des hausses du raisin un peu trop violentes. Il ne faut pas avoir peur de dire les choses comme elles sont. En effet, les maisons ont été obligées d'augmenter leurs tarifs pour suivre le grand leader, qui a beaucoup de succès, le groupe LVMH en l'occurrence, dont nous ne pouvons que saluer la belle performance, mais effectivement, sa bonne santé les amène à augmenter le prix du raisin, et ce n'est pas toujours facile à suivre pour toutes nos maisons. Autant ça ne pose pas de problème pour des maisons très spécialisées comme Philippe Renard, de Vainage, etc., comme vous les avez vus tout à l'heure, autant c'est plus compliqué pour celles de nos maisons qui sont exposées à la grande distribution. Donc, nous voyons sur le slide suivant que cette priorité au développement de la valeur se fait de façon inégale selon les joueurs, mais enfin globalement pour la Champagne, malgré la chute de l'an dernier, vous voyez, la valeur a quand même représenté, en départ cave, j'entends, 4,2 milliards. Il ne s'agit pas de prix de vente consommateur, hein. Prix de vente consommateur, le chiffre d'affaires de la Champagne serait plutôt à deux ou trois fois cela. Mais là, il s'agit bien du prix hors taxe départ de la Champagne, sortie de chai, comme on dit. Ces ventes se sont réparties, si on le voit sur le slide suivant, dans trois grandes directions, puisque c'est ainsi que nous tenons nos statistiques à l'intérieur de la Champagne. Le marché français est facile à isoler. Et ensuite, il y a une distinction qui est calculée entre l'Union européenne et les pays tiers. Alors, pour les besoins de la cause, le Royaume-Uni a été réintégré dans les pays tiers sur cette statistique. Donc, vous ne voyez pas évidemment de faux mouvements liés au Brexit. Hein, il a été réintégré, même rétrospectivement, bien sûr. Alors, ce que l'on observe, c'est que le marché français, je vous le disais, depuis la crise de 2008 et la rechute de 2011, le marché français décroche. Et ça, c'est quand même très préoccupant, puisque la chute est quand même assez gigantesque. Donc, il faut absolument s'en occuper. Pour nous, c'était à peu près à cette époque-là, plus de 60% de nos ventes. Maintenant, gros Dieu merci, nous avons progressé à l'exportation. Et le marché français est minoritaire chez nous, parce que là, nous avons progressé à l'export. Mais enfin, globalement, nous avons quand même souffert de cette baisse de volume. Les principaux marchés export, vous les connaissez, ils sont publiés généralement vers le mois de mars. Là, vous voyez que le Royaume-Uni a chuté fortement l'an dernier. Bon, il y a évidemment la crise du Covid liée à l'histoire du Brexit n'a pas simplifié les choses. Nous avons quand même des signaux de reprise en 2021. Je vous en toucherai un mot tout à l'heure. L'Allemagne, c'est pareil, ce n'était pas très très brillant. Vous voyez, les pays tiers, l'année dernière ont souffert, mais c'était eux qui avaient progressé ces dernières années, principalement sous l'effet des grands leaders, et nous y prenons notre part cette année, je vous en parlerai tout à l'heure, puisqu'ils sont passés, en 10 ans de 54 millions à 70, enfin à 80 millions pratiquement. Alors il y a une rechute l'an dernier, mais enfin on peut espérer une reprise, dès que la circulation, la réouverture des restaurants sera à nouveau permise. Sinon, on regarde parce que les chiffres que je vous ai présentés jusqu'à maintenant étaient des chiffres de volume de bouteilles. Maintenant, si vous regardez volume versus valeur, nous voyons que la France crée beaucoup moins de valeur que l'exportation. Ce ne sont pas forcément les mêmes opérateurs qui y expédient. On le voit d'ailleurs entre nos maisons. Une maison comme Lançon, par exemple, expédie 80% à l'export, Philippona aussi, alors que une maison comme Chanoine ou comme va faire peut-être 80% en France, et Alfred Rothschild, c'était jusqu'à présent 100% en France. Voilà. Donc nous voyons évidemment cette grande différenciation entre 46% des volumes sont vendus en France, mais ne représentent que 39% de la valeur. Donc l'exportation, c'est évident que c'est là qu'il faut être, mais comme tout le monde raisonne de la même façon, il y a aussi une concurrence exacerbée sur les marchés d'exportation. Ces marchés d'exportation, vous voyez que les premiers marchés en volume et en valeur ne sont pas les mêmes, puisque en volume, le premier, c'est l'Angleterre, alors qu'en valeur, c'est de très loin les États-Unis. Ensuite, il y a une certaine stabilité dans l'ordre entre dans le classement hiérarchique. Et donc, les États-Unis sont évidemment une cible numéro un. Alors, dans ce contexte d'évolution très contrastée entre les différents marchés, comment nous en sommes-nous tirés? Bon, d'abord, je voudrais juste rappeler que notre historique, bon, le capital, il n'y a pas de variation dans le capital. Donc je ne sais pas pourquoi ce slide est ici, pardon, c'est un peu idiot, ça ne fait rien. Le capital est resté détenu par les mêmes personnes ou sociétés. Il n'y a à peu près rien à signaler. L'histoire du groupe, vous savez que c'est un groupe quand même très récent, hein, donc il ne faut pas toujours nous comparer à des maisons très anciennes qui ont toujours été bénéficiaires. Nous sommes un groupe récent et nous sommes partis avec trois élastiques et deux sous pour plaisanter. Donc c'est-à-dire que nous n'avons pas eu les moyens d'acheter des maisons très riches et en bonne santé. Il faut donc rappeler tout de même ce petit détail. À part Alexandre Bonnet qui allait bien quand on l'a racheté, la plupart des autres maisons étaient quand même en difficulté et il a fallu que nous consacrions beaucoup d'énergie à les remettre en état et notamment à investir, notamment pas mal du point de vue industriel, de ce qui est quasiment terminé, je vous en reparlerai plus tard. Nous sommes un pure player, c'est tout à fait clair, nous ne faisons que du champagne. Nous sommes deux fois à Reims, nous sommes trois fois à Épernay, nous sommes à Haï, à Marœuil-sur-Haï, nous sommes au Risset, nous sommes vraiment un acteur local fort, nous sommes fidèles à la Champagne à 200%. Alors on peut dire que c'est une faiblesse, on peut dire que c'est une force, en tout cas c'est notre fierté, voilà, c'est comme ça, on n'est pas obligé d'adhérer, mais en tout cas c'est notre fierté. Alors, notre groupe se compose donc de 8 maisons, vous le savez, vous l'avez vu tout à l'heure. En tout, nous avons 441 collaborateurs, mais j'ajouterais qu'il y a 1 500 vignerons qui sont en contrat avec nous, ce qui veut dire que nous faisons vivre, enfin, nous sommes en tout cas importants économiquement pour près de 2 000 personnes, ce qui est une très grande responsabilité sociétale, évidemment. En termes de vignobles, nous possédons directement un petit 139, un petit 140 hectares, plus 51%, plus 50% de 19, donc disons qu'en tout, nous sommes à un petit 150 hectares, si vous voulez. ce qui ne représente que un petit 10% de nos besoins. Donc 90% de nos besoins de raisin viennent de nos 1500 vignerons partenaires. Nous avons notre propre vignoble, est, soit en Déméter, soit en bio, soit en HVE. C'est pas tout à fait terminé, ça sera fini l'année en cours à 100%, et nous encourageons beaucoup les vignerons indépendants avec qui nous travaillons s'inscrire dans la démarche HVE. HVE, je rappelle que ça signifie haute valeur environnementale. C'est assez proche du bio, mais c'est un peu plus facile à exercer. Notre stratégie, maintenant, elle est en évolution depuis déjà quelques années. Les énormes investissements, je rappelle, on fait des investissements très importants en termes de soit de capacité, soit de modernisation de l'outil de travail. Je vais vous dire que ceci est un peu derrière nous, heureusement, parce que ça a été très lourd. Aujourd'hui, nous investissons beaucoup plus dans des actifs qui relèvent de la communication. C'est le développement commercial et marketing qui va pouvoir enfin devenir notre priorité. Alors peut-être qu'on aurait dû prendre ce virage plus tôt, mais il fallait bien déjà qu'on ait des outils à la hauteur de la qualité que nous recherchons. Et la qualité aujourd'hui que produit chacune de nos maisons est quand même très élevée, et elle est très reconnue par tous les guides d'ailleurs, et ça c'est une satisfaction pour nous, parce que en tant que champenois, nous voulons être fiers de chaque bouteille qui sort de chez nous. Et je crois qu'aujourd'hui nous avons globalement, nous avons certainement les plus beaux outils industriels de toute la Champagne, même si d'ailleurs le grand groupe dont je parlais tout à l'heure a créé aussi de magnifiques outils dans la région de la Côte des Blancs. Nous sommes un groupe qui sommes que Champagne, mais donc nous sommes aussi tout segment du Champagne. Alors ça nous amène à souffrir un peu dans le segment des entrées de gamme et des marques aux distributeurs, puisque malheureusement il y a une concurrence excessive et déraisonnable dans ce domaine. Mais bon, nous avons décidé quand même de rester présents sur ce créneau. Bien sûr, j'allais dire, c'est pas très original, mais nous faisons des efforts à l'exportation. Concernant 2020, et on va regarder les chiffres, vous les avez peut-être déjà vus, l'année a été évidemment, pour nous comme pour tout le monde, marqué par la crise sanitaire. Donc la dynamique de renouvellement que nous avons mise en place n'a pas pu produire ses effets, en tout cas pas en totalité, mais un petit peu quand même, puisque finalement nous avons mieux résisté à la baisse des marchés que la plupart de nos collègues, puisque le marché est à moins 17,7, presque moins 18%, et nous sommes à moins 11%. Bon, donc cela dit, pour être tout à fait juste, nous nous comparons à une année 2019 qui n'était pas du tout satisfaisante. Donc, en vérité, notre performance n'est pas vraiment, vraiment meilleure que celle du marché. Par contre, nous avons une grande variation. Par exemple, la maison Boiselle, qui fait de la vente par correspondance, s'était rappelée tout à l'heure, eh bien, elle a progressé en volume et en résultat. Donc, la grande difficulté a surtout été concentrée sur la problématique de la revalorisation du prix des bouteilles pour essayer de passer les 10% que le raisin a subi et qui se trouve dans les bouteilles qui sortent maintenant. Et la grande difficulté, elle est là. Lançons une restructuration qui est bien avancée. Et pour les autres maisons, il y a un petit peu plus de retard, mais ça va dans la bonne direction. Nous avons fait quand même très attention à notre structure financière et évidemment notre compte de résultat a subi tout cela, mais s'en sort quand même pas trop mal, notamment compte tenu de certains éléments un peu exceptionnels dont on pourra vous reparler tout à l'heure, puisque si le chiffre d'affaires est consolidé est en baisse de 11%, le résultat opérationnel est en baisse de 24%, et le résultat net de 37%, hein, pratiquement. Donc, ces chiffres, je crois que vous les connaissez, ils ont déjà été publiés. Peut-être que Nicolas pourrait nous donner quelques éléments concernant le bilan, oui. Notamment les aspects un peu exceptionnels pour que chacun puisse...
Oui, le bilan, comme c'est parfaitement intégré, classique d'un groupe de maisons de champagne. Donc, très forte intensité capitalistique, comme on dit. Beaucoup de capitaux, vous voyez un total de bilan qui représente pas loin de 4 fois le chiffre d'affaires de l'exercice. Les capitaux propres en 2020, vous le voyez, ont un peu progressé. Ils auraient dû progresser en réalité de la totalité du résultat. Cela étant, il y a eu quelques opérations de réévaluation de vignes. On est très contraint, et en particulier l'autorité tutelle surveille ceci très très précisément. Donc nous le faisons scrupuleusement. Il y a eu quelques dépréciations tout à fait comptables des vignes qui pèsent pour un peu plus de 4 millions. Et puis aussi des opérations liées à ce qu'on appelle les engagements vers le personnel, le passif social qui pèse tout de même pour pas loin de 2 millions, vous voyez. Alors, de ce fait, les capitaux propres s'élèvent à 289 millions. Il y a une ligne qui pèse 21 millions dans le total du bilan, vous le voyez, au passif, ce sont ces engagements vers le personnel. C'est un jeu d'écriture entre les capitaux propres et cette ligne du bilan. C'est ça, qui pèse 21 233 000 euros, c'est une progression de près de 2 millions, et c'est une diminution d'autant des capitaux propres. Alors, je souligne que la part à moins d'un an des financements qui apparaît ici à 231 millions contient bien sûr les crédits de vieillissement que nous renouvelons en 2021, contient également des prêts garantis par l'État dont l'intention du groupe est de les rembourser durant l'exercice 2021, et puis bien sûr la part des crédits d'investissement qui seront remboursés durant cet exercice. Si nous restons encore une minute sur le passif, ce que le groupe doit en quelque sorte, vous voyez la ligne fournisseur qui s'établit à un peu plus de 94 millions est en baisse de 25% par rapport à l'année précédente. C'est assez directement lié à l'évolution de la vendange qu'a évoqué Bruno Paillard et en particulier le passage de l'appellation de 10 200 kilos à 8 400 kilos l'hectare pour la vendange 2020. Pour l'actif, j'attire votre attention sur les immobilisations incorporelles, ce sont nos marques qui ne bougent pas. Il y a les immobilisations corporelles, ce sont les près de 140 hectares de vignes propres qu'a évoqué Bruno Paillard précédemment, ce sont nos emprises foncières, ce sont les bâtiments, ce sont les outils de production, bref, tout ceci est évalué à 207 millions dans nos comptes. C'est inférieur à 2019 puisqu'il y a eu des ajustements réglementaires des vignes que j'ai évoquées précédemment concernant le passif. Et puis, évidemment, il y a la part annuelle des amortissements des immobilisations. Et puis, comme vous le voyez, les stocks qui constituent, ce sont essentiellement les vins en vieillissement, bien sûr, qui constituent une part majoritaire du bilan, et qui baisse légèrement en raison de l'attention que le groupe porte à la bonne adéquation de ses stocks et de ses besoins. Et puis enfin, le poste client qui diminue de 18%, c'est également le reflet d'une moindre activité à la fin de l'exercice 2020 par rapport à ce qu'elle avait été à la fin de l'exercice 2019.
Oui, pour nous parler de la dette financière, pouvez-vous nous en dire un mot, Nicolas?
Alors, concernant la dette financière, elle est donc consacrée à près de 83% au vieillissement du stock des vins. Par ailleurs, lorsque nous finançons comme il se doit nos investissements, nous choisissons des durées qui correspondent généralement entre 5 et 10 ans à la nature des biens financés. Et nous rappelons que le taux moyen de notre dette financière est stable en 2020 à un niveau qui est raisonnable. Alors, il y a un slide qui vous restitue cela. En 2020, vous voyez le stock, donc évalué le stock des vins en vieillissement, évalué à 523 millions. Les crédits de vieillissement qui sont adossés en quelque sorte pour 428 millions. Et puis à droite, en vert, vous voyez pour 289 millions nos fonds propres et puis nos autres dettes nettes qui s'élèvent à 105 millions à rapprocher des 74 millions de l'année précédente, car ils contiennent la part des financements garantis par l'État qui sont logés sur la société holding. Voilà. Et puis,
Bien.
Je crois que je vais parler maintenant des investissements.
Merci, merci Nicolas. Je crois que nous avons une bonne qualité de relation avec nos partenaires bancaires et effectivement, notre intention, enfin, sauf rechute grave du Covid, je n'en sais rien, enfin, de la Covid, mais notre intention est de rembourser ces PGE cet été. Donc, nous allons vous parler aussi des investissements. Les investissements, vous avez deux types d'investissements. Ceux qui sont en vert sur ce slide, ce sont des acquisitions de vignes. Et ça, ce sont en général des sujets assez lourds. Nous ne sommes pas structurellement acheteurs de vignes, mais il se trouve de temps en temps que nous avons des vignerons partenaires qui nous livrent leurs raisins et qui ont besoin de vendre une parcelle pour telle ou telle raison, installer leur fils ou leur fille ou prendre leur retraite, je ne sais quoi, ou acheter une maison à la campagne. Bon, enfin, en tout cas, il y a de temps en temps des ventes que nous sommes un peu qui nous sont un peu forcées. Et puis il y a même si nous essayons en général de faire en sorte que les vignerons partenaires s'arrangent entre eux pour rester nos fournisseurs, bien sûr. Mais sinon, dans certains cas, nous sommes amenés à acheter. Par exemple, en 2018, un achat assez important qui représentait 50% d'un grand vignoble. Mais sinon, ces petites colonnes vertes ne sont pas très importantes. Alors, les colonnes bleues, elles, ce sont les investissements industriels essentiellement dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont quand même en forte baisse. Même s'il y a encore cette année un programme encore chez Chanoine de renouvellement de certains matériels et également chez Alexandre Bonnet pour les raisons que Arnaud Fabre expliquait tout à l'heure d'autonomie du vignoble et donc il faut évidemment lui donner une installation spécifique. Donc il y aura des investissements de ce côté-là, mais même si nous lancerons cette année un programme d'investissement qui sera plus dans l'ordre de ce qui a été fait en 2019, entre 9 et 10 millions, il ne sera pas entièrement lancé cette année d'ailleurs, mais enfin il va se trouver mettons entre 5 et 10 millions. Nous n'avons pas bloqué totalement nos investissements, c'est ça que je voulais dire, et ils vont reprendre un petit peu à la hausse. Le slide suivant vous montre notre gearing. Vous savez, le gearing, j'y attache de l'importance, c'est la dette financière nette rapportée aux capitaux propres et nous incluons depuis 2016, à cause des normes IFRS, nous intégrons les leasing. Vous avez ce gearing qui malgré le fait que les mesures dont a parlé Nicolas Roulot-Dugage nous ont un peu fait baisser nos fonds propres, notre gearing s'améliore tout de même un petit peu à 1,82. Voilà, c'est bien. Voilà. Je dois dire que j'aurais bien aimé arriver à 1,5 un de ces jours, mais je le vois pas. De toute façon, ce qui compte surtout, c'est le fait que les immobilisations, c'est-à-dire les vignes, les bâtiments, les fonds de commerce, les matériels, enfin les immobilisations, sont toutes couvertes par les fonds propres. En fait, pour un besoin permanent, il faut des capitaux permanents, c'est-à-dire du capital. Bon, eh bien aujourd'hui, c'est le cas, et c'est donc ça qui est l'essentiel. Ça nous donne une grande sécurité par rapport aux événements. Alors, ceci d'ailleurs nous permet de reproposer à nos actionnaires un petit dividende, vous l'avez lu dans nos projets, donc c'est ce que nous allons voter aujourd'hui. Je crois que nous avons le quorum, Nicolas, pour
oui.
Voter le dividende. Bon, donc nous pouvons dire que c'est d'accord. C'est une distribution très modeste parce qu'il représente un peu plus de 20% du résultat, 22% du résultat. C'est-à-dire que 78% reste quand même dans les fonds propres. Et ceci, je crois, est un signal bien clair vis-à-vis de nos partenaires bancaires du fait que nous ne leur faisons pas supporter tout le poids de notre croissance, mais que nous sommes les premiers supporteurs de l'entreprise en tant qu'actionnaires. Je rappelle que depuis 1996, la moyenne de distribution n'est que de 15%, c'est-à-dire extrêmement faible. Il faut nous préparer dans les années qui viennent à une distribution d'un tiers, ce qui serait assez raisonnable. Il faut déjà, bien sûr, procéder dans l'urgence actuelle à la remise en ordre des ventes, etc. car aujourd'hui notre principal défi, c'est le défi commercial. Et justement, si nous parlons un peu des perspectives, je peux vous parler de la tendance de début d'année, puisque je crois que c'est cela qui est intéressant. Il est évident que nous entrons dans une période où la base de comparaison est tellement absurde que les pourcentages ne signifient pas grand-chose. Mais ça, c'est le premier point. Deuxième point, nous avions fait d'ailleurs un premier trimestre l'année dernière qui était plutôt bon. On était très bien parti l'année dernière jusqu'à ce 16 mars où on a tout s'est arrêté. Mais on avait plutôt bien démarré l'année. Là, le trimestre, je n'ai pas le conso, mais enfin j'ai la compile des ventes puisque nous ne faisons plus de bilan trimestriel, mais enfin je peux quand même vous donner en compilation des ventes. Nous sommes à peu près à plus 9% en chiffre d'affaires sur le premier trimestre comparé à l'an dernier, ce qui n'est pas si mal. Et si on le ramène à... Alors évidemment, si je regarde que les mois d'avril, on va avoir des chiffres beaucoup plus spectaculaires, mais le mois d'avril n'est pas terminé. Voilà, donc plus 9,3 sur le trimestre, c'est une tendance qui est satisfaisante. Je pense que sur le semestre, ce sera beaucoup plus important. Pour le moment, il est assez difficile de se projeter, évidemment, mais sachons quand même que ceci nous met, si nous regardons par exemple une comparaison avec 2019, cela nous met en avance, mais cela ne nous met pas en avance par rapport à 2018. Voyez, donc par rapport à 2018, nous serions encore en retard de à peu près 4%, et donc ça n'est pas satisfaisant. Il faut continuer à progresser. Par contre, le volume, le chiffre d'affaires, c'est une chose. Ce qui est le plus important, ce sont les prix moyens, triple net. Et c'est là que se font les efforts principaux. Donc, je crois que nous pouvons envoyer un message de confiance. Et puis, pour avoir des éléments plus précis, bien, il faudra attendre les semestriels, parce que là, nous fabriquons un vrai bilan. Et je pourrais vous donner des choses très précises à ce moment-là. Voilà, donc la vie de l'action, elle monte, elle baisse. Juste rappeler les fondamentaux, nous avons introduit l'action en 2016, en décembre 2016. L'introduction s'était faite autour de 4 euros et quelques, la côté à peu près stable pendant la première année, 4,95 au 31 décembre 1996. Aujourd'hui, l'action est à 21 euros. Bon, la valeur boursière ne reflète pas du tout la réalité des fonds propres, puisque les fonds propres sont passés dans le même temps de 16 millions à 289 millions. Donc, voilà, chercher l'erreur, moi, je n'y peux rien. Les actions se vendent et s'achètent en dehors de nous, en dehors des actionnaires familiaux. C'est plutôt aujourd'hui, me semble-t-il, un cours d'achat, mais enfin, après tout, c'est à chacun de se positionner selon son point de vue. Alors, concernant les relations actionnaires, Nicolas, pouvez-vous nous rappeler
les relations que nous avons avec les actionnaires tiennent à plusieurs lignes, en réalité. Alors, chaque année, nous émettons un document d'enregistrement universel, ce fameux document que nous appelions précédemment un document de référence, comme son nom l'indique, c'est clair. Alors, ce sont 137 pages qui sont très instructives. Je vous invite toujours à les consulter. Et nous le déposons auprès de l'AMF qui, évidemment, regarde tout cela de façon très, très précise. Nous l'avons déposé le 26 mars dernier. Nous confectionnons chaque année une brochure institutionnelle, une présentation des maisons, qui est également d'ailleurs disponible sur le site du groupe. Site du groupe sur lequel vous trouverez d'ailleurs, à destination de nos actionnaires, une offre préférentielle pour les meilleurs vins de chacune de nos maisons et qui est à une validité de la fin du mois de juillet. Et puis enfin, nouveauté 2021, vous en avez vu une partie tout à l'heure entre l'Assemblée spéciale et l'Assemblée générale mixte, une vidéo qui nous avons constituée qui est relative aux résultats 2020 et je dirais surtout à une présentation de la nouvelle gouvernance des maisons. Cette vidéo est bien sûr disponible sur le site Internet. Alors, après que Bruno Paillard ait présenté le rapport du conseil d'administration, il y a d'autres rapports que j'évoque en quelques mots et qui figure de façon détaillée dans le document d'enregistrement universel. Un rapport sur le gouvernement d'entreprise, ce sont quand même 12 pages dans lesquelles on indique précisément comment le groupe, la société holding, les maisons fonctionnent. Il y a un rapport, il y a même trois rapports ensuite que je dois évoquer, mais qui n'ont pas fondamentalement d'intérêt, puisqu'ils disent que nous ne faisons pas, que nous n'avons pas durant l'exercice 2020 en tout cas, attribué d'options de souscription, nous n'avons pas attribué d'actions gratuites, et donc ceci est assez clair. Enfin, avant que nous procédions à l'examen des résolutions et que je vous indique le résultat des votes obtenus par la présence de Bruno Paillard par correspondance et par procuration, nous devons inviter le collège des comités rencontres, représenté, je crois, par Mallory Demestre, le patron, en quelque sorte, du bureau rémois de Grontorton, à présenter une synthèse de leurs différents rapports.
Oui, absolument. Merci, Monsieur Rouleau-Dugage. Donc, mesdames et messieurs les actionnaires, au nom du collège des commissaires aux comptes, donc les cabinets Grontorton et KPMG, nous allons vous rendre compte de notre mission sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020. Alors, les résultats de nos travaux d'audit ont été présentés et discutés avec le conseil d'administration qui s'est tenu le 18 mars 2020. Donc, nos rapports sur les comptes annuels et consolidés, sur les conventions réglementées et les rapports sur les résolutions relatives au capital ont été tenus à votre disposition par la société. Les rapports sur les comptes annuels et consolidés figurent dans le document universel d'enregistrement en pages 107 à 110 et le rapport sur les conventions et engagements réglementés en page 111. Ils ont été établis et signés en date du 24 mars 2021. Donc je vous propose, comme le veut l'usage de cette assemblée, de vous en résumer les termes. Je vous rappelle que l'objectif principal de notre mission de certification des comptes est d'obtenir une assurance raisonnable sur la sincérité, la régularité et l'image fidèle des comptes, et que ceci ne comporte pas d'anomalies significatives. Donc, tout d'abord, notre rapport sur les comptes annuels de l'ensemble des CC, qui sont préparés selon les principes comptables français. Donc, ces comptes ont été certifiés sans réserve et sans observation. Outre la justification d'appréciation imposée par notre régulateur relative au contexte évolutif de la crise sanitaire liée à la COVID-19, le fondement de cette opinion repose notamment sur une justification des appréciations qui concerne l'évaluation des titres de participation. En effet, au 31 décembre 2020, ces actifs représentent un montant significatif de votre bilan, c'est-à-dire 179 millions d'euros, soit plus de 80% du total bilan. Et chacune des participations est évaluée à chaque clôture, à sa valeur d'utilité. Concernant les vérifications spécifiques, nous confirmons que toutes les informations prévues par la loi ont bien été fournies par l'ensemble BCC à ses actionnaires et que nous n'avons pas d'observation sur la sincérité et sur la concordance avec les comptes annuels des informations fiduciaires figurant dans le rapport de gestion. Alors, les comptes consolidés du groupe, eux, sont préparés selon le référentiel comptable IFRS. Ils ont également été arrêtés par votre conseil d'administration. Ces comptes sont certifiés sans réserve et sans observations. Et outre également la justification d'appréciation imposée par le régulateur relative au contexte évolutif de la crise liée à la COVID-19, nous avons considéré comme justification d'appréciation les éléments suivants qui sont similaires à l'année dernière, qui comprennent des estimations significatives de la direction, c'est-à-dire l'évaluation des terres à vignes à leur valeur de marché, l'évaluation des écarts d'acquisition et des autres actifs incorporels à durée de vie indéfinie, tels que les marques, avec la mise en œuvre par la direction des tests de perte de valeur, et enfin l'évaluation des provisions relatives aux engagements de retraite et autres avantages postérieurs à l'emploi. Donc, en application de la loi, nous avons également établi un rapport spécial qui porte sur les conventions réglementées. Donc, ce rapport spécial est présenté en page 111 du document d'enregistrement universel. Il ne nous a été donné avis d'aucune convention ni d'aucun engagement autorisé au cours de l'exercice 2020 à soumettre à l'approbation de votre Assemblée générale. Et par ailleurs, nous avons été informés que l'exécution des deux conventions suivante déjà approuvée par votre assemblée générale au cours de l'exercice antérieur, s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé, à savoir il s'agit en premier lieu d'un engagement de cautionnement conjoint et solidaire auprès des maisons Burtin, AR et LID, au profit de la société PEBR dans le cadre du partenariat dont bénéficie votre groupe, et enfin l'autre convention concerne le bail commercial entre votre société et sa filiale Champagne de Venoge.
Oui, pardon, madame, vous pouvez peut-être juste préciser que les initiales que vous venez, PEBR, etc., AR, tout ça, c'est le partenariat en fait autour de la marque Alfred Rothschild avec nos amis bordelais du même nom.
Absolument, vous avez raison, monsieur Payard. Et par ailleurs, nous avons également établi les rapports imposés par la loi dans le cadre des résolutions qui vous sont soumises à votre approbation au titre des propositions et des délégations à consentir au conseil d'administration liées au capital social. Donc, nous vous remercions pour votre attention.
Merci. Merci, messieurs les commissaires aux comptes. Si je résume, vous certifiez nos comptes sincères et véritables, c'est bien cela?
Votre résumé est tout à fait exact.
Bon, c'est plus court. Bon, merci beaucoup. Alors, nous pouvons maintenant, Nicolas, je crois que je vais passer aux questions écrites, mais si j'ai bien compris, nous n'avons pas reçu de questions écrites, n'est-ce pas? Non, nous n'avons pas reçu de questions écrites. Bon, nous avons... Et puis, malheureusement, le système ne permet pas les questions orales, si j'ai bien compris.
Bon, nous avons des relations, d'accord, parfois au courant de l'année avec nos actionnaires qui parfois nous interrogent. De façon écrite, mais dans le cadre de cette Assemblée générale, nous n'avons pas été saisis de questions écrites précises.
D'accord. Merci. Donc, alors, est-ce que nous pouvons passer maintenant, Nicolas, au vote des résolutions?
Oui. Alors, je rappelle que le quorum minimal étant largement dépassé, puisque nous avons atteint 72% des voix, les résolutions peuvent être valablement juridiquement adoptées. La première résolution porte, comme vous le voyez, sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice. Ce sont les comptes de la société holding. La société holding qui, comme vous le savez, est une société animatrice, c'est important de le préciser, et qui perçoit des prestations d'animation au titre de son activité auprès des maisons du groupe, ainsi, bien sûr, que des produits financiers de participation, c'est-à-dire les dividendes qu'elle perçoit des maisons du groupe. Cette résolution porte sur l'approbation de ces comptes qui a produit un résultat net de 5 268 000. 10 141 et 473 voix se sont exprimées pour, en totalité pour, donc la première résolution est adoptée à l'unanimité. La deuxième résolution porte sur l'approbation des comptes annuels consolidés. Ce sont ceux du groupe dont Bruno Payard vous a parlé, et qui ont produit en 2020 un résultat net de l'exercice de 6 388 000 euros, 10 141 et 473 voix se sont exprimées en totalité pour, donc la résolution est adoptée à l'unanimité. La troisième résolution porte sur l'affectation du résultat. Alors, c'est amusant parce que le quorum atteint pour cette résolution est un peu supérieur au quorum concernant les autres résolutions, puisque là, on atteint 82,4% des actions qui se sont exprimées. Donc, 11 609 000 et 733 voix se sont exprimées en totalité pour l'adoption de cette résolution. Donc, elle est adoptée à l'unanimité. Je rappelle que, mais Bruno Payard l'a précisé, le dividende s'élève à 20 centimes par action, seront donc distribués 1 419 141 euros le 4 mai prochain. La quatrième résolution porte sur les conventions réglementées qui ont été évoquées tout à l'heure par Mallory Demestre. 10 141 473 voix se sont exprimées en totalité pour l'adoption de cette résolution qui est donc adoptée à l'unanimité. La cinquième résolution porte sur la fixation du montant annuel de ce que l'on appelait les jetons de présence autrefois et que l'on appelle maintenant la rémunération allouée aux membres du conseil d'administration. Ils sont 9, comme vous le savez, et le montant de cette rémunération est fixé à 90 000 euros. Résolution adoptée à l'unanimité par les 10 141 000 et 473 voix qui se sont exprimées. La sixième résolution et dernière résolution de la partie dite ordinaire est relative à l'autorisation qui est conférée de longue date, d'ailleurs, que nous renouvelons tous les 18 mois, au conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres titres. C'est une résolution qui nous est nécessaire car c'est dans cette autorisation que s'intègre notre contrat d'équité. C'est le cadre juridique de notre contrat d'équité. 10 141 473 voix se sont exprimées en totalité pour l'adoption de cette résolution. Donc, résolution adoptée à l'unanimité. Et nous passons donc à la partie extraordinaire de votre Assemblée générale, pour laquelle le quorum est également largement atteint. La septième résolution porte sur l'autorisation qui est donnée au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions détenues en propre par la société. Les actions auto-détenues par la société sont assez peu nombreuses, puisque ceci est rappelé dans le document, bien sûr, d'enregistrement, mais je vous rappelle qu'il y avait 14 202 actions auto-détenues au 31 décembre 2020, dont 9 231 dans le contrat de liquidité. Voilà, alors 10 141 473 voix se sont exprimées pour l'adoption de cette résolution à totalité, donc c'est une résolution adoptée à l'unanimité. Ensuite, la huitième résolution porte sur, c'est donc une délégation de compétences conférée au conseil d'administration pour une durée de 26 mois. On ne l'avait pas renouvelée l'an dernier, donc ça vient généralement tous les deux ans. Concerne l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, le DPS qu'évoquait Bruno Payard précédemment. 10 141 473 voix se sont exprimées en totalité pour l'adoption de cette résolution. Donc, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix exprimées. La neuvième résolution porte également sur une délégation de compétences d'une durée de 26 mois. C'est aussi dans le cadre d'une augmentation de capital social, mais cette fois-ci avec suppression du DPS, ce qui est assez logique puisque dans cette résolution est évoqué le cas spécifique des placements privés.
Et, oui, peut-être on peut en dire un mot. Là, nous avons quelques oppositions de principe, non, c'est ça?
Oui, mais elles restent peut-être des oppositions de principe, mais qui se sont assez peu exprimées puisque 10 107 676 voix se sont exprimées, donc par présence, par procuration ou par vote par correspondance, se sont exprimées pour l'adoption de cette résolution, mais 33 797 voix se sont exprimées contre. Donc cette fois-ci, cette résolution n'est pas adoptée à l'unanimité, mais à un pourcentage appréciable de 99,67% des voix exprimées.
Ça fait un peu soviétique. Mais non, je vais juste en dire un mot. C'est la raison pour laquelle nous savons qu'il y a quelques oppositions, mais la raison pour laquelle nous l'avons tout de même maintenue. Prenez l'hypothèse, par exemple, que nous fassions une augmentation de capital demain pour accueillir des nouveaux actionnaires qui, au lieu d'amener du cash, amèneraient une entreprise. C'est une hypothèse qui n'est pas absurde. Et à ce moment-là, comment voulez-vous donner droit préférentiel de souscription voyez-vous, donc il faut, c'est pour cela que nous avons gardé cette hypothèse. Bon, cette résolution, ça reste dans le domaine des pures hypothèses. Naturellement, il n'y a rien en cours, je tiens à le dire, mais enfin, ça peut toujours servir. Voilà. Merci.
La dixième résolution porte également sur une délégation de compétences en faveur du conseil d'administration. C'est une durée de 26 mois également. On est encore dans le cas d'une augmentation de capital et au cas où la demande est excédentaire, eh bien, cette résolution confère au conseil d'administration la possibilité d'accroître le montant de l'émission. Nous enregistrons 10 107 676 voix pour l'adoption de cette résolution et, curieusement, parce qu'il n'est pas prompt à parler, exclu le droit préférentiel de souscription, ça peut être fait avec ou sans, mais également avec. Et nous avons également 33 797 voix qui se sont exprimées contre, donc cette résolution est également adoptée à 99,67% des voix exprimées. Enfin, la onzième résolution porte sur donc une délégation de compétences également en faveur du conseil d'administration, une durée de 26 mois également. C'est concerne le cas de figure de l'augmentation du capital social par incorporation de réserve et ceci par création et attribution gratuite de titres. Cette résolution a été, enfin cette délégation de compétences qui n'est pas nouvelle, a été utilisée à plusieurs reprises durant ces 10 dernières années. 10 141 473 voix se sont exprimées pour l'adoption de cette résolution, aucune contre. Donc cette résolution est adoptée à l'unanimité. La 12e résolution est très très de forme, puisqu'elle concerne une délégation de compétences conférée au conseil d'administration également pour une durée de 26 mois, mais concernant en quelque sorte une réservation d'augmentation du capital social au profit d'adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise que le groupe aujourd'hui n'a pas. Donc cette résolution est adoptée, nous sommes en réalité juridiquement tenus d'adopter cette résolution, mais il faut bien admettre qu'elle sera sans portée pour le moment, elle est néanmoins adoptée à l'unanimité des 10 141 473 voix exprimées. Enfin, la 13e résolution est le résultat en quelque sorte de l'adoption par l'Assemblée spéciale qui a précédé cette Assemblée générale mixte de la modification du calcul des droits de vote. Comme vous le savez, un actionnaire qui possédait ses actions en nominatif depuis 2 ans bénéficiait pour son action de 2 droits de vote, une action à droit de vote double, qui est source en définitive de confusion. Il est apparu plus clair d'appliquer le principe « une action, une voix, un droit ». Et cette suppression de la clause statutaire de droit de vote double a été adoptée comme il le fallait juridiquement au préalable par une assemblée spéciale des actionnaires disposant des seuls actionnaires disposant du droit de vote double. Et nous pouvons donc maintenant vous soumettre cette résolution pour cette suppression de la clause statutaire et la modification corrélative de l'article 12 des statuts que vous pouvez lire sur le document qui vous est projeté. Et cette résolution a été adoptée à l'unanimité des 10 141 473 voix qui se sont exprimées sur cette résolution. Voilà, enfin la 14e résolution, bien sûr, ce qui concerne les pouvoirs pour l'accomplissement des formalités et qui est également adopté à l'unanimité. Voilà, Monsieur le Président, la partie statutaire, l'adoption des résolutions ayant été effectuées dans les formes requises, nous pouvons considérer que l'Assemblée générale mixte dans sa forme juridique peut être clôturée.
Bien, merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire Général. Je me suis peut-être un petit peu emmêlé tout à l'heure parce que je vous ai donné des chiffres du trimestre versus 2019, n'est-ce pas? C'est cela, hein? Enfin, en tout cas, non, c'est ça, c'est 9,3, oui, 9,3, pardon. Et la progression, donc c'est assez satisfaisant tout de même. Et je voudrais donc vous envoyer un message d'optimisme parce que nous avons un dynamisme fort quand même dans nos maisons. Chacune de nos maisons est vraiment aujourd'hui sur le terrain commercial à 200%. Nous avons des carnets de commandes qui sont en général d'assez courte durée parce que dans ce métier, ce n'est pas comme dans l'aéronautique où on a des carnets de commandes qui portent sur plusieurs années. Nous avons des carnets de commandes avec une visibilité généralement entre 2 semaines et maximum 2 mois, si vous voulez. Mais nous avons quand même des négociations commerciales qui, dans l'ensemble, se sont bien passées, nonobstant la difficulté tarifaire vis-à-vis de la grande distribution française. Pour le reste,
ça va plutôt pas trop mal. Et donc nous fondons de grands espoirs sur la réouverture des restaurants qui devraient se faire, si j'ai bien compris, plus ou moins avec les terrasses entre mai et juin, en tout cas sans doute au 15 juin, et on pourrait avoir une très belle saison d'été. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous, je ne sais plus quelle est la date, en septembre, je crois que c'est le 8 septembre, pour la publication des résultats du semestre. C'est le 9 septembre, pardon, excusez-moi. Et donc, nous vous donnerons à ce moment-là des éléments plus précis, mais sachez juste que nous avons un optimisme, nous sommes dans un optimisme raisonnable. Voilà ce que je voudrais dire en conclusion. Et je vous souhaite à tous de bien veiller sur votre santé et de passer d'ici là un bel été. Voilà, à bientôt. Merci.
Merci.